vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas, la dire la.
Cinérama l'été.
On va s'en fourrer jusqu'à là, la dire la.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
On se passe de l'actualité.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Je m'en fous.
Cinérama l'été, trois séries pour vous contenter.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama en mode estival. Ça veut dire qu'on va pas forcément vous parler de l'actualité du cinéma, mais cette émission va me faire mentir puisque on va parler d'un film qui s'appelle Bel Enfant. Alors c'est un film d'un réalisateur qui n'est pas connu, qui est Jim, qui est avant tout un auteur de BD. Et il se trouve que c'est Marine Bohain qui tient le rôle principal de ce film. Et Marine Bohain a été pendant longtemps une chroniqueuse de l'émission Cinérama. Donc elle nous parlera de ce film qui était une vraie aventure. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez chacun un film dans votre série.
Alors oui, moi je vais vous amener en 2024, mais vu par le prisme de la série B des années 60 avec Le Voyageur de l'espace.
Et toi Manu ?
Et moi je vais vous parler d'un premier long métrage d'Alante Cavaïté qui s'appelle Écoute le temps.
Et puis moi je reviendrai sur les génériques de Sacha Guitry car elle s'amusait beaucoup avec le début de ses films. Mais nous commençons avec comment était vu 2024 dans les films d'anticipation. Il fut un temps.
Cinérama.
Attention, Cinérama. Tout le monde l'écoute. Attention.
Comment certains films ont vu 2024.
Disons que c'est de la prémonition.
Prémonition.
Nous sommes en 1960. Le major William Allison est un pilote d'essai de l'armée de l'air américaine qui a été chargé de piloter un avion réaction expérimental dans l'espace à des vitesses jamais tentées auparavant par l'humanité. Malheureusement, sa mission l'amène accidentellement 64 ans dans le futur, soit en 2024, à une époque où une peste a décimé la majeure partie de la population et créé des foules hostiles de mutants qui cherchent à faire des ravages parmi les quelques personnes les moins infectées vivant sous terre. Pourtant, même si ces gens ne souffrent pas encore pleinement des ravages de la peste, la maladie les a tous rendus sourds, muets et complètement stériles. L'arrivée du Major Allison leur donne l'espoir que peut-être lui et une belle femme nommée Trirène pourront leur offrir une chance de repeupler l'espèce humaine.
Who are you? What are you doing to me? I said, what are you doing to me? Can't you hear me? Get me out of this thing!
Alors que le titre français annonce un voyage dans l'espace, avec Le Voyageur de l'espace, le titre en version originale est plus loquace. Beyond the Time Barrier, ou Au-delà de la barrière du temps, titre poétique s'il en est, recentre son récit sur la notion de voyage dans le temps qui va amener le protagoniste principal à découvrir son futur. Alors c'est d'ailleurs pas une surprise, toute petite production, Le Voyageur de l'espace a profité de l'arrivée imminente du gros film de Georges Pal pour surfer sur son éventuel succès. Le succès sera donc effectivement au rendez-vous pour le Georges Pal, mais qui ne rendra pas pour autant immortel le film d'Edgar G. Ulmer. Beyond the Time Barrier est un récit classique mais excitant de science-fiction coincé entre deux œuvres emblématiques du genre. D'un côté, bien évidemment, donc le séminal La machine à explorer le temps de Georges Pal en 1960, inspiré par le célèbre roman du même nom d'H.G. Wells, aussi papa de l'homme invisible. De l'autre, il y a Nimitz, Retour vers l'enfer de Don Taylor, sorti en 80, qui met en scène le porte-avions américain du même nom, qui se retrouve au cœur de la Seconde Guerre mondiale.
I don't understand. You are from a nation of speaking peoples. How glorious that must be. Our society is less fortunate.
Your society.
En mettant en scène la stérilisation de la population, Le Voyageur de l'espace anticipe également un autre grand film de science-fiction, Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón. Alors il y a également son générique de début qui se déroule exactement comme les textes en ouverture des célèbres introductions des films de la saga de la Guerre des Étoiles. Et bien sûr, comment ne pas penser à la conclusion exceptionnelle de La Planète des Singes de 1968 avec ses astronautes qui seront allés bien loin pour se retrouver si près. Alors preuve qu'il en est que le film est véritablement à mi-chemin entre le cinéma de genre d'antan et les futurs grand titre des décennies suivantes, le maquillage des mutants est assuré par Jack Pierce, le légendaire maquilleur d'effets spéciaux à l'origine du look impactant et jamais dépassé des Universal Monsters des années 30 et 40, dont celui de la créature de Frankenstein dans le film du même nom de James Whale de 1931 avec Boris Karloff.
Thank you.
voyageurs du temps est le type de film de science-fiction de la fin des années 50 et du début des années 60 dont vous savez, après environ 5 minutes déjà, qu'il aurait pu être un très grand moment de cinéma si seulement les acteurs et l'équipe n'avaient pas travaillé avec un budget aussi minimaliste. La plupart des idées conceptuelles sont brillantes et fort bien élaborées, mais les décors bon marché et les effets spéciaux souvent au rabais ont un impact extrêmement restrictif sur la plausibilité globale et la valeur du divertissement, tout du moins sur le grand public qui ne peut souffrir de tant de modestie. Franchement, c'est bien dommage, parce que Le Voyageur du Temps, c'est l'exemple même de ces films de drive-in qui gardent malgré tout et toutes ces petites casseroles un charme fou et stimulent au plus haut point les amateurs de science-fiction. Alors faites donc l'effort de vous y plonger, surtout que toutes ces qualités sont dues à l'immense talent de son réalisateur, l'éclectique et très doué Edgar G. Ulmer. Le réalisateur, mais aussi critique et historien du cinéma, Peter Bogdanovich, a souvent fait l'éloge du travail de réalisation d'Ulmer sur des films à petit budget comme Le Chat Noir de 34, Le Bandit de 55 ou 7 contre la mort en 64, qu'il considère comme des classiques, ajoutant que, je cite, ce qui est étonnant est que tant de films d'Ulmer, tous ces films, ils ont une signature clairement identifiable, bien qu'ils soient réalisés avec si peu d'encouragement et si peu de moyens. Ulmer a en effet eu à la fois le bonheur et le malheur d'avoir une liaison avec Shirley Castle, qu'il a finalement épousée, l'honneur est sauf, qui à l'époque était l'épouse du producteur de films Max Alexander, neveu du puissant président d'Universal Pictures, Carl Laemmle. Ulmer a donc passé la majeure partie de sa carrière à languir à l'échelon le plus bas de l'échelle des studios, mais a prouvé régulièrement ses très grandes compétences malgré l'indigence de certains budgets. Le Voyageur du Temps fait assurément partie de ses modestes réussites et on vous invite justement à faire ce voyage.
Merci Guillaume, tu reviens la semaine prochaine pour nous parler d'un autre film qui a vu 2024 dans le passé. Nous allons parler maintenant des génériques.
Cinérama. Cinérama.
Y a-t-il quelque Cinérama. Chose que je devrais savoir ?
Une petite histoire du générique.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Je vais encore repousser le moment de vous parler de la révolution produite par Saul Bass sur le générique de début de film en consacrant ma rubrique à un réalisateur français qui a su s'amuser avec le générique qui était plutôt figé à son époque. Ce réalisateur, c'est Sacha Guitry, un homme de théâtre qui a d'abord méprisé le cinéma avant de jouer avec ses codes. Et c'est un avantage pour nous, alors que le générique peut se montrer très visuel, avec Guitry, il est généralement bavard comme le bonhomme. Dans le Nouveau Testament, en 1936, il y a de nombreuses phrases et non de simples mentions des participants au film. Et dans Le Diable boiteux, en 1940, Sacha Guitry énonce ce qui est écrit.
L'on secondait Nicolas Toporkov qui distribuait la lumière tandis que Marcel Franqui encadrait les images et que M. Jean Riol enregistrait les sons. L'ont assisté François Gire tout d'abord, Jeannette Thiévan aussi, puis Claude Verria qui nota tout, Michel Autain qui ne négligea rien et enfin Jeannette Berton qui monta ce film dont la régie générale fut assurée par Fred Gentil. Photographe André Garimont, costumier René Decret. Quant aux décors, ils sont de René Renoux et c'est tout dire. Madame Maguirouf créa les robes et Monsieur Pokrovski les costumes. La musique que l'on entend est de Louis Betz, l'administrateur général fut Jean Théry et le directeur de la production Monsieur Jean Mugeli. Enfin, voici les interprètes.
Pour Désiré, non seulement Guitry innove en dessinant une partition avec des notes et en écrivant le titre à la main, mais il n'est plus en voix off, mais se place devant la caméra pour présenter les acteurs et personnages.
Mesdames, messieurs, le film que nous allons avoir l'honneur d'interpréter devant vous est de votre serviteur. Mais veuillez, s'il vous plaît, veuillez venir feuilleter avec moi cet album. Voici Madame. Voici Monsieur. Voici Monsieur Corniche et Madame Corniche, qui sont des amis de Monsieur et de Madame. Et nous voici maintenant tous les trois. Voici la femme de chambre.
Le réalisateur se placera encore devant la caméra pour La Poison en 1951. Il demandera à Michel Simon de se mettre avec lui dans le champ pour lui signer une dédicace, histoire de lui rendre un grand hommage. Voilà un extrait.
Eh bien, puisque vous m'avez fait la grâce de me demander une dédicace, la voici. Michel Simon, ce film que je viens de réaliser me réservait l'une des plus grandes joies que j'ai eues au théâtre, car on ne m'empêchera pas d'appeler cela du théâtre. Jamais encore je ne vous avais eu pour interprète. Eh bien, vous êtes exceptionnel, je dirais même unique, car entre le moment où vous cessez d'être vous-même et où vous jouez votre rôle, il est impossible de voir la soudure.
1949, pour introduire en deux colombes, il fait une longue ouverture pour présenter les métiers du cinéma. Et en 1951, dans Deux bureaux, Sacha Guitry présente une sorte de reportage sur le film que les spectateurs vont voir. En 1952, dans Je l'ai été trois fois, il présente encore une fois un reportage en montrant eh bien, les travailleurs de l'ombre des studios de cinéma. On les voit qui rentrent donc dans un immense studio.
Ponctuel, travailleur, souriant, voici les ouvriers. Et qui nous dit que parmi eux, il n'y a pas peut-être un futur chef opérateur, un ingénieur du son ou un décorateur.
En 1941, avec Le destin fabuleux de Désiré Clary, Guitry fait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, me semble-t-il, hein, mais qu'on a revu depuis. Il a placé la suite de son générique de début alors que le film est entamé depuis 49 minutes, comme s'il s'agissait d'un entracte. Mais le bijou du générique de Guitry est peut-être le roman d'Andrew Scheer en 1936. C'est d'ailleurs le premier générique de Guitry que j'ai pu voir. Alors non seulement il use de l'image en dévoilant le titre du film, en nous montrant des cartes à jouer, mais en plus eh bien, il donne des éléments comme sa voix en off, mais aussi sa présence de dos. On le voit écrire sa signature sur un gros paperboard avant que l'image ne soit rembobinée. Nous sommes dans le roman d'un tricheur, rappelons-le.
Ce film, je l'ai conçu et je l'ai réalisé moi-même. La musique en a été composée par mon ami Adolphe Borchard. Marcel Lucien qui en a gravé les images, assisté par Raymond Cluny, tandis que Paul Duverger en imprimait les sons, isolé dans sa cabine, comme en plongée. Les décors ont été exécutés par Gerbe et par Ménessier, et c'est Malraix qui les meubla. Quant à mes interprètes, les voici. Marguerite Moreno bavarde avec Jacqueline de Lubac. Elle fait semblant de lui montrer quelque chose, mais elles auront bien de la peine à nous faire croire qu'elles ne savaient pas qu'on les cinématographiait. Voici Roger Duchesne qui ouvre la porte à Rosine de Réan et à Elmire Vautier. Où est Serge Grave? Serge, où es-tu? Serge! Quoi? Rien, voilà, c'est tout. Ah bon. Je me demande maintenant où peut se cacher Pauline Carton. Mais voici Fréhel qui cause avec Labrie. Pauline Carton, voulez-vous venir que je puisse vous remercier de m'avoir si bien secondé pendant que je réalisais ce film? Et voulez-vous sourire à votre camarade Pierre Assis, s'il vous plaît? Voici Pfeffer, qui joua son véritable rôle de héros dans cette histoire. Il cause avec Dupré. Voici Myriam et son état-major, c'est elle qui monta le film. Enfin, voici...
Voilà, c'était la série consacrée au générique de film. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour un nouvel épisode. Mais nous allons maintenant parler d'une autre série estivale. C'est celle consacrée au film fantastique réalisé par des femmes françaises.
Cinérama.
Cinérama.
Les réalisatrices françaises de films fantastiques.
Mais c'est le rêve des ménagères.
Ça doit être probablement spirituel, mais j'avoue que je n'y comprends rien du tout.
Le prologue d'Écoute le temps, hein, sec et intrigant, alors fait office d'avertissement, de présage de ce qui va suivre. Une mère et sa fille, hein, Charlotte, roulent en voiture. Soudain, un impact violent brise la vitre avant de la voiture. Première fissure sur le pare-brise. La mère affolée, traumatisée d'avoir mortellement blessé un daim. Alors sur le coup, on ne comprend pas très bien la raison de cette panique excessive. Il y a bien sûr une explication à ce comportement étrange que je ne vais pas dévoiler, évidemment. Plus tard, la mère, une voyante, meurt assassinée. Charlotte emménage dans sa maison, quelque part, dans un village au nord de la France. Ingénieure du son pour des documentaires animaliers, elle décide de mener l'enquête en utilisant son savoir-faire. Mais très vite, un dérèglement se produit. Elle parvient à enregistrer des sons qui ont eu lieu par le passé et revit ainsi ce qu'a vécu sa mère par bribes.
C'était très beau. Il y avait beaucoup de monde. J'ai tout écrit là. Il y a aussi son médaillon.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas été comme ça.
Elle n'aurait jamais dû s'installer là-bas.
fait combien de temps que tu n'y es pas allé?
4 ans, je crois. Tu es sûre que tu veux y aller toute seule?
Pourquoi on lui a fait ça?
Ils ne savent pas encore. Il faudrait que tu appelles le gendarme qui s'occupe de l'enquête.
Elle a souffert.
Le postulat résolument fantastique d'Écoute le temps est habilement intégré dans un contexte réaliste. Dès les premiers plans, le spectateur est happé par son atmosphère pesante. Le temps pluvieux, la campagne verdoyante et monotone, l'architecture austère composent un cadre oppressant. Alante Cavaité, dont il s'agit du premier long métrage, dépeint une ruralité très chabrolienne, alors qu'il n'évite pas toujours les clichés avec ses paysans superstitieux, ses petits bourgeois provinciaux, ses néo-ruraux bio et ses rednecks locaux. Cette description caricaturale de la France profonde, loin d'avoir la causticité de l'auteur du Boucher, est sans nul doute le point faible de ce film étrange qui attise la curiosité par ses partis pris équivoques. Il joue sur des registres ambivalents, a priori opposés, qui lui confèrent une aura singulière. La présence du surnaturel contamine une intrigue criminel classique qui multiplie les fausses pistes jusqu'au dénouement. Alors derrière le thriller routinier qui flirte parfois avec les codes les plus éculés d'un téléfilm lambda, se niche une œuvre beaucoup plus mystérieuse et ambitieuse où en contrepoint tout un monde se dérègle, se fissure. Alors d'ailleurs pour sa sortie en DVD, le film avait été rebaptisé Fissure, sans doute à cause de l'échec du film en salle. Alors au fur et à mesure que Charlotte plonge dans le passé, perce à jour les secrets inavouables des habitants, la maison s'effrite, son enquête prend des allures de thérapie. Elle redécouvre sa mère aussi par le prisme de sa voix. Elle n'a jamais accepté le don hérité de cette mère, perçue alors comme une personnalité névrosée et inquiétante. Cette tireuse de cartes dérangeait le paisible petit entourage au point d'être assimilée à une sorcière. Et pourtant, ironie de la situation, tout le village la consultait.
Vous êtes venu voir les cultures bio? Vous êtes venu jusque-là, je vais vous faire visiter. Vous êtes de passage dans la région?
Je m'appelle Charlotte Neris.
Julien, j'ai appris ce qui s'est passé, je suis désolée. C'était quelqu'un de bien, votre mère.
Vous y croyez-vous, toutes ces choses? La voyance?
Tiens, goûte ça. Zéro traitement. Même pas besoin de laver avant de manger. Lance-tu-toi?
Si tu veux. Elle m'a dit pour vous deux.
Je croyais qu'elle voulait pas que ça se sache.
Le récit aux ramifications nombreuses se complexifie, intégrant des arcs narratifs parallèles autour du meurtre d'un enfant et puis de problèmes écologiques. À l'intérieur de ce puzzle, Charlotte tisse une organisation personnelle de l'espace-temps, la maison devenant un labyrinthe de fils entremêlés, d'annotations diverses, un repère irréel d'énigmes entrelacées. Sa recherche de la vérité se transforme en obsession introspective dont on ne sait s'il s'agit d'un travail de deuil ou d'un effondrement psychologique basculant du côté de la folie. Alors la cinéaste entretient habilement le doute pendant une partie du film. Alors finalement, les apparences sont trompeuses, les coupables ne sont pas toujours ce qu'on croit. La résolution de l'intrigue, presque banale, évite tout sensationnalisme au risque de décevoir. Mais ce qu'Écoute le temps perd en efficacité, il le gagne aussi en densité. Alors la mise en scène au diapason ne parvient pas à trancher alors entre une sophistication assumée et puis une âpreté entre ses beaux plans surcadrés et ses inclinaisons réalistes des séquences filmées caméra à l'épaule. Il en ressort une forme intéressante, mais un peu bâtarde. Alors néanmoins, ce premier film prometteur, c'est quand même bonifié avec l'âge. C'est toujours intéressant d'ailleurs de revoir les films comme ça, préférant la suggestion aux effets choc. 8 ans plus tard d'ailleurs, la cinéaste Alante Cavaité confirme son talent avec un très beau film qui s'appelait Summer. Et depuis, elle a un peu disparu des radars. Je crois que c'était 2015 Summer, donc ça fait quand même 9 ans. Et puis autre plaisir, c'est de revoir en fait Émilie Deken, qui avait une vingtaine d'années et qui se révélait vraiment comme une actrice de plus en plus impressionnante. Après là, ça
c'était après les Nordaines.
C'était après Rosetta, ouais. Voilà, oui, après la découverte dans Rosetta qui était son premier long métrage.
Ouais. Alors, hasard du calendrier, elle revient à l'affiche d'un film de genre qui est actuellement à l'affiche, c'est Survivre.
Oui.
Alors je l'ai pas vu.
Moi je l'ai vu.
Apparemment.
Non, c'est pas bien.
Elle transforme moins l'essai quand elle est.
Non, c'est pas terrible. Et puis là, il y a un problème de direction d'acteur. C'est-à-dire que moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et
très touchant.
Alors elle joue plutôt bien. comparé aux autres, on peut le dire, parce que le film est catastrophique sur le plan de l'interprétation. Bon,
c'est dommage, voilà. Le pitch était prometteur.
Oui, oui.
Parlons maintenant de quelqu'un qui joue bien, c'est Marine Bohain dans le film Bel Enfant, sur les écrans depuis le 24 juillet. Alors Marine a été pendant quelques années membre de l'équipe de Cinérama, elle nous a quittés l'automne dernier. Alors forcément, on lui a posé quelques questions sur ce film et son expérience, car Marine est une actrice atypique et le film l'est aussi.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Bel Enfant de Jim est une comédie dramatique qui prend parfois des faux airs de rom-com et de body movie, mais qui met en scène l'éloignement familial, la difficulté de se parler, la mort et puis aussi un peu l'amour. Alors au casting, il y a Marine donc, mais aussi l'humoriste Baptiste Le Caplain et Marissa Berenson, oui, l'actrice de Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Elle joue une mère fantasque qui a annoncé son suicide programmé à la télévision. Alors j'ai pu poser quelques questions à Marine, alors je précise que ce n'était pas une interview ou en interaction, ça nous a été impossible de le faire. Mais l'essentiel est bien qu'elle ait pu enregistrer les réponses.
Je vais devoir partir quelques jours pour des trucs familiaux.
Ah ouais, rien de grave, j'espère.
On a du nouveau. Rémi sait si elle s'est réveillée ou pas.
Ah, oh, bon, tu sais, moi, j'en sais pas plus que vous, hein. J'ai les infos au compte-goutte.
On dira ce qu'on voudra quand même, mais heureusement qu'elle fait des tentatives de suicide, maman. Hein. On se verra jamais sinon.
Alors Marine, ça y est, Bel Enfant, film dans lequel tu partages l'affiche avec Baptiste Le Caplain, sort en salle. À Cinérama, on a vécu hein, ce tournage à distance, car parfois tu étais absente en raison du tournage, un tournage qui s'est étendu plusieurs mois à cause du mode de financement. Alors raconte-nous cette production atypique.
Ça a en effet été une production très atypique, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jim, donc, est scénariste et réalisateur du film, en choisissant de faire ce premier long métrage avec une parfaite inconnue, à savoir moi, c'est vrai qu'il s'est pas aidé. Après, voilà, il y a eu plein de paramètres hein, qui ont rendu les producteurs, les éventuels producteurs frileux. Donc c'est vrai que la recherche de financement, elle a clairement été compliquée. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on tournait dès qu'on avait un peu d'argent. Et le tournage, de fait, s'est fait en 7 sessions. Donc quand tu parles de plusieurs mois, en fait, c'est plusieurs années. D'autant qu'on s'est retrouvé victime du Covid, ce qui nous empêchait d'aller tourner en Italie comme c'était prévu initialement. Jim, après, il a été très malin puisqu'il a rusé hein, en tournant parfois certaines scènes qui devaient se passer en Italie, en les tournant dans le sud de la France, etc. Et ensuite, grâce à des effets visuels, on a pu faire croire qu'on était bien sur la côte italienne. Mais puis, en dehors de ça, on a aussi tous fait des concessions sur nos cachets qui ont été extrêmement réduits. Aussi, bah, c'était moi qui me maquillais, c'était moi qui me coiffais. Bon, ça, je pense que ça se voit. Hein. Et puis, puis c'est moi qui porte mes propres vêtements aussi, voilà, dans le film. Donc, on a fait en sorte d'économiser aussi sur pas mal de choses.
Alors même si tu as fait de nombreux tournages, c'est quand même ton premier grand rôle dans un long métrage. Alors comment tu vis ça, toi qui dans ton métier de journaliste as plutôt l'habitude de poser des questions aux comédiens et réalisateurs?
En fait, moi je joue depuis que j'ai 13 ans, donc finalement être aujourd'hui dans Bel Enfant, on va dire que ça me paraît plutôt naturel. Et même, je crois que j'irais même plus que le fait d'avoir un premier rôle aujourd'hui, je crois que ça me paraît plutôt pertinent dans le sens où je crois que pour bien jouer, enfin pour, en tout cas pour plutôt pas trop mal jouer, je crois qu'il faut réussir à être connecté à ses propres émotions. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à pouvoir atteindre. Vraiment, ça m'a mis pas mal d'années avant d'être capable de faire ça. Donc j'aurais été incapable, je crois, de jouer Émilie il y a 10 ans. Mais c'est vrai qu'entre-temps, j'ai quand même fait mon chemin, moi, comme journaliste au cinéma, et je me retrouve aujourd'hui avec un parcours qui est assez atypique, avec cette double casquette qui a tendance à un peu surprendre les gens. Et c'est vrai que les gens, souvent, ne comprennent pas que je ne fasse pas un choix entre ces deux métiers. Alors que pour moi, très honnêtement, c'est une richesse vraiment d'avoir ces deux métiers qui, en plus, à mon sens, se complètent très bien. Je pense que, par exemple, j'ai notamment, comme journaliste, un regard analytique sur le jeu des comédiens. Et je crois que cette analyse, je m'en sers, moi, pour essayer de jouer juste quand je passe devant la caméra. Et inversement, quand c'est moi qui interviewe des comédiens, étant donné que je connais la réalité des tournages, je pense que ça m'aide aussi dans la compréhension que je vais avoir de leur travail.
Ah bah, tu es venue, finalement.
Je suis contente de te voir.
Et tu comptes finir quoi, ta mère?
T'es ma mère, donc j'imagine que je t'aime. Mais j'ai besoin de distance pour pouvoir t'aimer. Parce que d'après, j'arrive plus. Tu m'abîmes.
Alors Marine, tu interprètes le rôle d'Émilie, une jeune femme qui s'accommode de sa vie, séparée de sa famille, parce qu'elle est dysfonctionnelle. Alors elle part pour l'Italie avec ses trois sœurs, car là-bas, sa mère aurait fait une tentative de suicide. Mais il n'en est rien, elle veut simplement voir ses filles, ce qui n'est pas au goût d'Émilie.
Émilie, c'est quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas très adulte, qui est même plutôt adolescent, on peut le dire. Et je crois que j'avais justement peur qu'on ne s'attache pas à elle à cause de ça. Mais le cheminement que ce personnage d'Émilie a, je crois qu'il rend le film assez universel, puisque Émilie, c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer avec sa propre famille. Ce dont on se rend compte aussi dans le film, c'est que finalement, tous les autres personnages ont également des problèmes pour exprimer ce qu'ils ressentent.
Petit café ? On se trouve à un endroit, je t'offre un café ? Tu vas où, là ? Eh non, mais à un moment donné, il va falloir répondre à mes questions.
Il y a la villa.
Ouais, quand même, c'est pas le petit cabanon, là.
Marine, tu interprètes une Émilie qui semble en totale adversité avec la vie, prête à exploser, à remettre les gens à leur place, à les écarter de son chemin. Et justement, sur ton chemin, alors que tu choisis de repartir pour Paris, eh bien, tu rencontres un certain Gabin qui s'est fait larguer et qui s'accroche à toi. Alors, c'est une piste rom-com, mais un peu décalée, car tu ne lui fais pas beaucoup de place.
La piste comédie romantique, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en effet, c'est une fausse piste, parce que finalement, le film part plutôt sur une sorte de buddy movie. Et le comportement que Émilie a avec Gabin, j'ai beaucoup aimé comment ce comportement était imaginé, était écrit. C'est-à-dire que Émilie avec Gabin n'est pas une femme dans la séduction du tout. Et je trouve qu'en 2024, avoir ce genre de personnage féminin, c'est très rafraîchissant. De même, c'est un personnage féminin qui n'est pas élégant, qui est même plutôt dans une impolitesse, hein, qui est totalement assumée, dans le sens où elle rit fort, où elle mange salement, elle se fout donc aussi bien de la politesse que de la fragilité du mec qui est en face d'elle. Et ça, je trouvais ça très drôle à jouer. Et j'espère que c'est aussi drôle à voir.
Le film traite de questions relatives à la mort, à la famille, évidemment, au bonheur, difficile à trouver. Ton personnage va s'adoucir, va s'ouvrir en acceptant l'altérité.
Je pense que le personnage manque clairement de maturité. Au début du film, on comprend que c'est un personnage qui a toujours été dans la fuite. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans Belle Enfant, eh bien, le personnage de Gabin, lui, il va permettre finalement à cette famille entière de se réconcilier et de se parler au travers de plein de choses. Je veux pas trop spoiler, mais notamment au travers de jeux et de conversations. Alors que dans la vie, c'est quand même plutôt généralement les femmes, je crois, qui jouent le rôle de psy auprès des hommes. Alors, je sais pas du coup si Émilie n'accepte pas l'altérité. Moi, je crois surtout qu'elle se retrouve en Italie dans une situation où elle va être obligée d'arrêter de fuir face à sa famille. Et je crois que c'est ça qui va la faire évoluer.
Tu m'as trop pris pour une conne, tu restes ici, tu me laisses tranquille. Et si jamais je t'envoie, je te pète les jambes. Tu arrêtes ça tout de suite.
Pas ça un homme quelqu'un brisé, hein.
Alors c'est une comédie, hein, notamment dans la relation que tu as avec tes sœurs et le fameux Gabin. Il t'arrive d'être parfois cinglante. Alors connaissant ton caractère, ton énergie, ça me semblait facile à interpréter. Mais qu'est-ce qui a été le plus dur à jouer ?
Je croyais à tort que le fait de jouer un personnage qui est à la fois très énergique et très en colère, je pensais que ça allait avoir un côté qui était très jouissif à faire. Mais en fait non, en fait c'était très fatigant parce qu'on te demande de refaire des scènes d'énervement plusieurs fois. Donc c'est intense et puis ça te demande aussi une grande concentration, ça te demande de rester dans une maîtrise, même quand tu es en colère, même quand tu joues à être en colère. Par exemple, il y a notamment une scène dans une voiture où sur le tournage, j'ai fait un trou, sans faire exprès, j'ai fait un trou dans le siège parce que j'ai tapé dans le siège avec mon téléphone portable à la main. Voilà, ou encore il y a une autre scène où je devais m'énerver contre Baptiste Le Caplin et je devais le pousser comme ça avec mes mains sur son torse. Et puis pareil, je me suis laissée entraîner par la colère de mon personnage et j'ai carrément agrippé ses tétons. Donc je lui ai fait très très mal, voilà.
En fait, maman, en fin de soirée, je vais peut-être retrouver un mec. Est-ce qu'éventuellement je peux le ramener à la maison, vu qu'Émilie a ramené quelqu'un ?
Mais comment j'ai éduqué mes filles ?
C'était Marine Bohain, ancienne chroniqueuse de Cinérama, qui est aussi eh bien, actrice de Bel Enfant, en salle depuis le 24 juillet.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui,
c'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission estivale de Cinérama. Moi, je vous parlerai cette fois-ci de Saul Bass qui a révolutionné le générique. Et puis toi, Manu ?
Je vous parlerai de Dark Touch de Marina Devane, alors réalisatrice française, mais qui tourne là dans le Pays de Galles.
Et toi, Liam, un film ?
Oui, moi je vais vous reparler, parce que je vous en avais déjà parlé à l'époque de sa sortie, de Songbird.
À la semaine prochaine.